Monsieur Fabrice Paulus?
Oui, lui-même, j'attendais votre appel, comment allez-vous? Bonjour.
Bonjour, c'est Jérôme Paul du blog du Bout de Bois. Merci de m'accorder cet entretien téléphonique.
J'avais deviné, comment allez-vous?
Très bien, très bien.
Ben oui, ça va, on est allé faire une longue promenade aujourd'hui.
Dans les bois?
Non, le long de la Meuse.
Ah, très bien.
Oui, le long de la Meuse, on en a beaucoup profité avec un petit pique-nique, bon, voilà.
Il fait pas trop froid dans les Ardennes en ce moment?
Non, ça va. Ce matin, oui, mais bon, après, ça s'est bien réchauffé dans la journée, puis on est rentré tranquillement par le centre-ville.
Oh, très bien.
Qui reprend à peu près son activité normale, bon, donc c'est bien.
Oui. Donc là, je téléphone à l'auteur Fabrice Paulus.
Merci avant tout de vous intéresser à mon travail.
C'est l'un des buts du blog que j'anime sur Internet. Donc j'ai fait une petite recherche. Donc vous êtes originaire de Charleville. Vous habitez donc toujours à Charleville.
Toujours, fidèle au poste, après avoir beaucoup voyagé. Je continue à voyager beaucoup. Voilà. Je suis toujours à Charleville-Mézières. Il faut que je revienne dans mes Ardennes.
Très bien. Et sur Internet, on peut aussi lire que vous êtes pompier le jour, ou que vous avez été pompier le jour et
oui,
que vous êtes écrivain la nuit.
Voilà, c'est plus juste. Alors, donc, j'ai exercé beaucoup d'activités professionnelles.
Mm-hmm.
Ma première formation après le bac, c'est l'école normale. Et puis, donc, ensuite, j'ai poursuivi des études à l'Université de Reims. Et puis, plusieurs formations en annexe, particulièrement tout ce qui était périscolaire. Donc animateur, directeur de centre de loisirs, enfin, etc., etc. J'ai dirigé énormément de sociétés, enfin beaucoup de sociétés dans le privé, et j'ai été aussi sapeur-pompier 10 ans, donc au centre de secours principal de Charleville-Mézières. Et donc c'est une activité que j'ai arrêtée maintenant pour des problèmes de dos. au moment où j'allais passer officier, donc j'ai arrêté en tant que sous-officier. Et oui, ça fait peut-être maintenant 7 ans que j'ai arrêté. Donc j'ai été sapeur-pompier, voilà.
Ça fait très très bien pour le marketing pompier le jour et écrivain la nuit, c'est très chouette.
Oui, c'était marrant.
Et je voudrais savoir quelle est la place de l'écriture dans votre quotidien maintenant.
Bon, ben, c'est la part la plus importante, bon bien évidemment comme toujours après mon épouse et puis mes proches, parce que je suis quelqu'un où je fais toujours passer avant toute chose, donc je... Contrairement à certains collègues qui, eux, travaillent 8, 10, 12, 15 heures par jour et se soucient un petit peu moins de leurs proches. Donc,
Mais donc, hormis l'écriture, vous n'avez pas d'autres activités professionnelles en ce moment?
Non.
Oh, c'est
vraiment... Mais vous savez, hein, quand on regarde bien, ça a toujours été mon activité principale depuis toujours.
Oui,
c'est simplement parfois, bon, sur purement la question alimentaire... je ne vous apprends rien. Si on n'est pas Amélie Nothomb ou Houellebecq, où on a beaucoup de mal à en vivre,
ou
d'Ormesson, enfin bon, vous voyez, ces personnes-là, hélas, se comptent sur les doigts, et donc derrière, il y a tout un... j'étais entre guillemets obligé d'avoir des activités professionnelles. Mais sinon, quand on regarde bien, c'est depuis toujours, et c'est selon les périodes... Ça peut aller jusqu'à 15 heures par jour. J'ai terminé des romans où je me mettais au travail à 8 heures, je décrochais à 23 heures. Et j'ai d'ailleurs des petits souvenirs marrants où mon épouse m'apportait des petits sandwichs. Enfin bon, voilà, c'est marrant comme tout. Hein. Mais sinon, c'est tous les jours. Oui, tous les jours, depuis que je suis adolescent, il y a un minimum, même quand je travaillais, 3-4 heures par jour.
Oh, d'accord.
Donc actuellement, mon quotidien, bon, j'écris surtout le matin en ce moment. Et ça représente en ce moment, en moyenne, 6 heures d'écriture au sens propre du terme.
Quotidienne.
Mais c'est un petit rythme. Hein.
Oh, c'est déjà très très bien, 6 heures d'écriture.
Comment?
C'est déjà très bien, 6 heures d'écriture, c'est même beaucoup.
Oui. André Nautel, que vous avez peut-être connu, vous avez peut-être eu la chance de rencontrer, il disait il ne faut pas trop travailler. Oui, c'est vrai que dans le domaine de la littérature, ça peut être aussi un piège.
Oui.
De trop travailler. Bon.
Sur Internet, j'ai vu que vous avez publié 7 livres.
Oui, j'en ai écrit à peu près une trentaine. Hein, j'ai pas compté, mais à peu près une trentaine.
Oui.
Donc voilà, donc c'est essentiellement du roman. mais j'ai des contes, j'ai des pièces de théâtre, des nouvelles, des recueils de poèmes, des essais aussi, j'ai deux essais. L'ensemble doit représenter à peu près une trentaine d'ouvrages.
Très bien, mais sur Internet, on n'en voit que 7, hein, si on fait des recherches.
Oui, mais c'est comme toujours la différence entre ce qui est publié.
Et donc, il y a des romans qui n'ont pas apparemment de lien avec les Ardennes.
C'est l'essentiel de mon travail. L'essentiel de mon travail, ce sont des romans qui n'ont, enfin, en apparence, comme toujours, qui n'ont rien à voir
avec les Ardennes.
Oui. Avec les Ardennes. Oui. Là, je suis en train de faire les corrections définitives d'un roman de presque 350 feuillets. Voilà, et l'action se déroule à Bruges, le Bruges flamand.
Oh, d'accord.
Là, j'ai des romans qui se déroulent en beaucoup de romans en Europe centrale, en Allemagne.
Vous avez écrit Le Chalutier, mais qui a quand même un rapport avec les Ardennes par la référence,
oui,
à Arthur Rimbaud.
Oui, ouais, ça c'est mon petit clin d'œil à Arthur Rimbaud. Voilà, qu'il fallait. C'est un livre qui reparaîtra dans quelques années dans sa version longue, parce que c'est un livre que j'ai entièrement retravaillé, et là aussi qui fera dans les 300-350 feuillets. Il s'appelle maintenant Coup de chien.
Et ça va paraître, vous pensez le faire paraître dans, chez, enfin, où?
Pour l'instant, non, là, je travaille sur le Faucon de Bruges, bon, qui est terminé, ce sont les corrections définitives. C'est un petit peu compliqué en ce moment parce que, avec les événements, eh bien, les ventes, vous vous en doutez, ont considérablement chuté depuis le mois de janvier-février. C'est une véritable catastrophe. Toutes les parutions depuis, allez, peut-être même début avril, mais on va dire mi-avril, sont reportés. Parce que tous les livres qui ont paru au cours du premier trimestre 2020, ce sont des livres mort-nés. Donc là, je rappelle qu'en France, on publie 110 000 livres par an, si je ne me trompe pas. Ça fait donc à peu près 300 livres par jour. Donc vous imaginez 300 parutions par jour reportées rien que sur le mois de mai, ça fait un peu plus de 9000 bouquins. Donc là, il va y avoir un sacré problème, sans compter les dépôts de bilan de librairie, etc. Il va y avoir un énorme décalage quant à la parution des romans, puisque les derniers romans ont paru, n'ont absolument rien donné en termes de vente. Les éditeurs, là, depuis 3 semaines à mois, ne sortent plus rien du tout, quoi. Ils attendent, ils patientent. Je crois même que pour ceux qui vendent le plus, je vais prendre l'exemple de Musso, je crois qu'il doit en être déjà un peu plus d'un mois de report de parution.
Vous avez écrit aussi un livre qui s'appelle La ligne de vie. C'est votre expérience de sapeur-pompier?
Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait un petit peu mon. J'ai fait. Bon, oui, voilà, c'est ça, La ligne de vie. Donc c'est un livre aussi qui sera repris. Donc ça, c'est dans l'univers des sapeurs-pompiers. Oui, oui.
Mais est-ce que, comme vous avez été sapeur-pompier à Charleville, est-ce qu'il est ancré à Charleville?
Oui, c'est à 100% inspiré de ce que j'ai vécu et des collègues et des camarades que j'ai eu à la caserne de Charleville.
Mais est-ce qu'il y a des références aux Ardennes dans le livre?
Oh, directement non, plus la profession en général, un sapeur-pompier en général.
Très bien.
Bon, ça se déroule dans les Ardennes. Bon, bien évidemment, je m'inspire de ce que j'ai vécu à Charleville, à la caserne de Charleville. Donc j'étais non logé, hein, pour info. Donc j'avais ma chambre à la caserne. Vous avez les logés et les non-logés. Les logés, ils ont un appartement de fonction. Donc, quand la journée se termine à 18h, ils rentrent chez eux. Moi, je faisais partie des non-logés, donc j'avais ma chambre à la caserne. Et donc, je montais des gardes 24 heures. Donc, je prenais mon service le matin à 8h. Et si tout allait bien, je le quittais le lendemain à 8h, quoi.
Et ensuite, vous avez, enfin, dans ma liste, je compte 3 romans policiers qui ont été publiés. Le premier
Il y a le festival qui est un petit peu policier, qui a une petite couleur policier.
Oh si, il y a quand même une intrigue policière dans le festival.
Mais de romans policiers au sens propre du terme.
Oui, c'est
donc, il n'y en a que 2 publiés, donc c'est les fameuses Enquêtes du Sanglier.
La Ferme Isolée en 2010 et L'énigme du Père Lachaise en 2014.
Voilà, en sachant que c'est une série qui pour l'instant comporte 17. Le prochain s'appelle L'homme de la rue Blanche, il est terminé. Mais comme c'est un commissaire divisionnaire, donc l'énigme du Père Lachaise, on était en grande partie à Paris.
Oui.
L'homme de la rue Blanche, on revient à 100% à Charleville.
Non, très bien, très bien.
Oui, mais vraiment de nouveau à 100%, on est à Charleville. Mais comme c'est un divisionnaire, vous aurez des enquêtes dans la Somme, en Bretagne.
D'accord. Exemple, mais Bretagne, je suppose.
Il y a une enquête qui s'appelle l'Oratoire de Saint-Guirec, après Perros-Guirec sur la côte de Granit Rose. Mais le prochain, l'homme de la rue Blanche, on revient dans les Ardennes à 100%.
Très bien. Mais je suppose que pour l'oratoire de Saint-Guirec qui se passe en Bretagne, il doit y avoir quand même, c'est un Ardennais, c'est le sanglier, il se promène avec sa pipe à tête de sanglier, donc il doit toujours parler des Ardennes dans ses livres.
Oui. Ben c'est, oui, c'est un amour, quoi. Après, peut-être que c'est son véritable amour, même s'il a une femme, bien évidemment qu'il adore. Mais oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin de sa carrière, alors qu'il pouvait prétendre à des postes dans le sud de la France, par exemple sur Antibes, Cannes, il a préféré revenir dans les Ardennes, au grand étonnement de sa hiérarchie, parce que pour lui, les Ardennes, c'est vraiment, c'est une histoire d'amour. Il ne peut pas vivre sans la soie, il ne peut pas vivre sans le retour, sans le granit, sans l'ardoise. Ce sont vraiment des choses qui coulent dans mes veines. Mon grand-père était ouvrier ardoisier, donc à fumer. Ça, ce sont des choses que j'ai encore aujourd'hui dans le sang.
Très bien.
La forêt, les rochers, la nature.
Est-ce que ça a été difficile de publier ces romans policiers dans les Ardennes?
Alors, paradoxalement, non. Parce que je me suis très rapide. Alors, pour les romans policiers, qui se déroule dans les Ardennes, dans la mesure du possible, je voulais un éditeur ardennais et je voulais un imprimeur ardennais. Parce que j'ai des livres qui sont donc publiés par des éditeurs parisiens, j'ai des livres qui ont été imprimés par exemple en Croatie, j'ai des livres qui ont été imprimés dans le Pays basque espagnol. Enfin bon, voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez, c'est la modernité. Et c'est d'ailleurs trop drôle de penser que certains bouquins sont imprimés en Croatie et qu'ils reviennent en camion. Enfin bon. Et pour les enquêtes du sanglier, j'ai voulu que ça soit vraiment une initiative de 100% ardennaise, que le personnage soit ardennais, l'écrivain, l'éditeur et l'imprimeur. J'ai eu la chance, donc je connaissais Jean-Marie Lecomte, qui à ce moment-là voulait s'ouvrir, comme toujours, c'est souvent une question de hasard, qui était donc éditeur depuis pas mal d'années. Mais qui à ce moment-là voulait s'ouvrir un petit peu à la littérature générale, mais tout en restant ardennaise. Et mon personnage récurrent lui a plu immédiatement. Et puis à ce moment-là, il travaillait avec l'imprimeur Félix de Boussier.
Oui.
Et donc, on a trouvé très rapidement un terrain d'entente. Et c'est comme ça que ça s'est fait très rapidement et naturellement.
Et donc, si vous deviez définir ces enquêtes du sanglier en quelques mots, comment vous y prendriez ?
Oh là là. Mais c'est déjà un drôle de bonhomme. Hein. C'est un drôle de loustique. Les lecteurs, même si ça fait déjà maintenant 2-3 ans que je ne fais plus de séance de dédicace parce que je n'ai pas d'inédit dans cette collection-là, souvent les lecteurs me disent, mais qu'est-ce que c'est que cet Olubrius ? Qu'est-ce que c'est que ce gaillard-là ? D'où il sort ? Il est bizarre, il a parfois des... C'est quelqu'un qui... Comment je vais pouvoir dire ça ? Qui a quand même de grosses difficultés avec l'existence, quoi. Il a du mal à comprendre, ce qui l'entoure. Il a du mal à comprendre l'humain.
Oui, il n'est pas toujours très, très, très optimiste dans ses propos.
Oui, du coup, c'est quelqu'un, c'est qu'on, de temps en temps, 10 000 est dépressif. Bon, moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait un personnage dépressif, mais peut-être sombre.
Oui, un peu sombre, oui, effectivement, un peu sombre.
Voilà, mais là, ce qu'on le veuille ou non, c'est une partie de l'être humain. Là aussi, je ne vous apprends rien. Et effectivement, cet aspect sombre, là, le mine. C'est vraiment chez lui, il a une sensibilité différente, et où la plupart des gens ne le remarqueraient presque pas. Lui, dès qu'il est confronté dans la vie quotidienne à ce fameux aspect sombre de l'être humain, ça le détruit immédiatement. Ça le décourage, ça le détruit. Il ne comprend pas pourquoi c'est pas plus simple, pourquoi c'est pas plus gentil.
Mais malgré ce personnage un peu sombre, il y a quand même de l'humour dans
oui,
les,
voilà,
dans les enquêtes du sanglier.
De l'autre côté, c'est quelqu'un, mais voilà, qui est très agréable à vivre, qui est capable de beaucoup d'humour, qui aime la vie, qui aime, voilà, cette dualité.
Et alors, il y a quelque chose d'assez malicieux, c'est que vous avez appelé votre personnage, donc le sanglier, le commissaire, de votre propre nom de famille, Paulus, c'est le commissaire Paulus.
Oui, c'est venu tout naturellement, et puis c'est dans la continuité de la façon dont on m'appelle depuis que je suis adolescent, et ça a été d'ailleurs le grand désespoir de beaucoup de copains, parce que depuis que je suis adolescent, on ne m'appelle pas Fabrice, on m'appelle Paulus. J'ai fait beaucoup de sport également, beaucoup de tennis, beaucoup de handball, beaucoup d'athlétisme. Et tous les copains m'appelaient Paulus sur le terrain, Paulus, enfin bon, voilà. Et dans les cafés, parce que bon, j'ai eu aussi une vie très riche dans ce domaine-là, un peu bohème, et ça a toujours été Paulus, on m'a toujours appelé Paulus, quand j'avais 17, 18 ans, 20 ans, et je pense que ça vient de là. Et le grand désespoir de beaucoup de copains, quand ils ont, quand certains réalisaient que c'était... vraiment mon nom de famille et pas un surnom. Et je suis sûr qu'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes sont persuadées que c'est un surnom, alors que c'est mon nom de famille. J'ai des souvenirs vraiment très précis de personnes apprenant que c'était mon véritable nom de famille, qui étaient pas déçues, mais qui étaient vraiment... Bon, voilà. Donc je pense que ça doit venir de là, et ça s'est fait naturellement, et puis ça sonne bien. Bon, voilà, donc Paulus, ça sonne bien. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'a pas de prénom.
Oui, j'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver.
Voilà, c'est ça. Donc, il en a un. Il ne sera cité qu'une fois, je crois, de mémoire que c'est dans la 9e enquête, où c'est sa femme, une seule fois qu'ils veulent l'appeler par son prénom, dans tout le roman. Et c'est un prénom qu'on ne verra pas apparaître dans les 8 premières enquêtes et qui ne réapparaîtra pas non plus après.
Si je comprends bien, donc vous avez une production de romans policiers qui se passe dans les Ardennes, ou en tout cas qui a comme personnage principal un Ardennais, et c'est très marquant pour, enfin, ça marque l'histoire, enfin, les histoires, les polars. Mais d'un autre côté, vous avez aussi d'autres livres qui se passent plus en Europe, ou qui ne se passent pas nécessairement, dans les Ardennes.
Je vous dis, c'est même l'essentiel de mon travail. C'est peut-être, 90% de mon travail.
Ok. Mais alors, pourquoi vous écrivez de temps en temps des livres qui sont vraiment ardennais et d'autres livres qui ne sont pas ardennais du tout?
Ben, je ne sais pas. Ça vient comme ça, hein. Je ne décide de rien, bon, voilà, c'est...
Donc vous n'avez pas une démarche,
du tout.
Particulière.
Non, vraiment du tout. Hein, vous savez, l'écrivain, il ne décide de rien, hein. Il ne décide même pas de son personnage, hein. Ça vient, ça s'impose. L'écrivain, il est là un petit peu comme un interprète, comme un pianiste. Et il est là pour interpréter, il est là pour donner vie au personnage, il est là pour être fidèle aux paroles de son personnage, il est là pour être fidèle à ce qui lui arrive, à son histoire. L'écrivain ne décide absolument de rien. Hein. Si un jour vous rencontrez un écrivain qui fait aller son personnage à gauche ou à droite, ça ne marche pas, hein. C'est le personnage qui décide d'aller à gauche ou d'aller à droite. Donc ce sont des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc il y a des moments, ça vient comme ça, et ça doit être un roman policier qui se déroule dans les Ardennes, et puis il y en a d'autres, ça doit être un autre personnage, à Prague, ou en ce moment par exemple à Bruges, le Bruges flamand. Alors je précise parce qu'il y a un Bruges en Gironde en France.
Très bien. Bon, alors vous savez très bien que le blog que j'anime est un blog sur la littérature, sur les lettres ardennaises. C'est pour ça que je vous pose que des questions sur la littérature et les Ardennes.
J'ai bien compris.
Maintenant, je vais vous poser des questions sur vous interroger sur votre production actuelle et vos projets. Mais vraiment, alors je sais que vous maintenant vous travaillez, vous finissez quelque chose, un roman qui se passe à Bruges, mais vos projets liés aux Ardennes.
Alors, juste après, je fais juste une petite parenthèse, juste après, si tout va bien, s'il n'y a pas une autre histoire, parce que vous vous en doutez des projets, vous seriez dans mon bureau, vous auriez peut-être les yeux un petit peu écarquillés, j'ai laissé des piles de chemises. Après, je travaille sur un recueil de contes qui se déroule en Allemagne, en Forêt-Noire. Mmh. Donc ça s'appelle l'horloge, environ une quarantaine de contes inédits qui se déroulent dans cette partie... de Forêt-Noire en Allemagne. Et donc, j'écris compte et compte au fur et à mesure. Mais enfin, ils sont tous structurés, hein, déjà. Il n'y a plus qu'à les écrire, entre guillemets. Et juste après, donc, je donne la forme définitive, justement, au prochain policier, l'homme de la rue Blanche. Là, on retrouve le commissaire Paulus, on retrouve Bougeron.
Et qui sera édité à Noirter.
Oui, oui. Eh bien oui, il se désespère, parce qu'il aurait bien aimé en avoir un, je dis pas presque chaque année.
Ça aurait été bien.
Mais bon, hélas, et puis je ne vous le cache pas, de très très gros problèmes que nous avons eus dans ma belle famille, donc la famille de mon épouse. Et j'ai été obligé pendant presque 5 ans, j'ai été obligé de m'occuper de sa famille et de plusieurs membres de sa famille. Et je n'ai absolument pas pu écrire pendant 5 ans, quoi. Donc, ce qui explique aussi un tel décalage, de parution et une telle absence, pour ne rien vous cacher, il y a même des gens qui ont cru que j'étais décédé, quoi. Et je suis de nouveau à peu près tranquille au niveau de l'écriture seulement depuis le mois d'octobre-novembre.
Oh, d'accord.
De l'année dernière. Donc je n'ai absolument rien écrit pendant 5 ans. Je notais seulement quelques petites phrases quand même de temps en temps, mais voilà, c'est absolument impossible.
C'est ce qui explique que depuis...
Je recommence seulement à écrire vraiment depuis, allez, on va dire, octobre de l'année dernière.
Ah oui, donc ça correspond plus ou moins à, parce que l'énigme du Père Lachaise est paru en 2014 et 5 ans après,
voilà,
2019,
voilà,
vous reprenez
l'écriture. Logiquement, il y aurait dû avoir très rapidement, en 2015, au pire 2016, il y aurait dû avoir l'homme de la rue Blanche. Et puis d'autres, enfin bon voilà, et ça s'est arrêté à cause de ça, mais aussi les romans qui ne se déroulent pas dans les Ardennes, ça a été un arrêt brutal, ça a été impossible, quoi. J'ai vraiment été dans l'impossibilité totale d'écrire pendant 5 ans. Ouais.
Si vous me permettez, on va revenir à vos livres. Donc vous avez dit au début de l'entretien, vous avez 17 romans de prévus pour les enquêtes du sanglier.
Ils sont tous. Alors ils ne sont pas écrits, bien sûr.
Oh d'accord.
C'est un petit peu comme les contes de Forêt-Noire dont je viens de vous parler. Mais en revanche, ils sont tous structurés déjà.
D'accord.
Donc ils font à peu près 30-40 pages de notes et de structures. Hein. Je dirais presque s'il y avait un réalisateur qui tombait là-dessus. Pourrait directement faire un film. C'est-à-dire que l'histoire est écrite, la structure est faite, et les dialogues les plus importants, les dialogues un peu charnières, sont écrits. Le livre en lui-même n'est pas écrit.
D'accord.
Donc j'ai 17 enquêtes comme ça de structure.
Prenons par exemple un titre. Je vois par exemple donc l'Oratoire de Saint-Guirec. Il y a une trentaine de pages de structure. Voilà.
Oui.
Supposez, vous avez maintenant le temps libre. Vous mettez combien de temps pour rédiger la première version de l'oratoire de Saint-Guirec?
Alors, c'est tellement variable. Écoutez, le roman que je viens de terminer, là, et sur lequel j'apporte les dernières corrections, bon, je sais bien qu'il y a les fameuses 5 années dont je viens de vous parler, et c'est un roman sur lequel je suis depuis plus de 10 ans. Alors, ça peut arriver qu'un roman policier aussi, qui n'est pas du même gabarit, allez, en moyenne, peut-être 3, 4, 5 mois de travail, en sachant que le livre est déjà structuré, mais on ne sait jamais où on met les pieds. Donc, vous pouvez très bien avoir un rythme de 3, 4 mois par roman policier, par exemple, en ce qui me concerne. Bon, si maintenant, certains, parfois, ils les faisaient en une semaine. Moi, j'ai un collègue chez Gallimard, il écrit des romans policiers en 10 jours de temps. Il en décrit d'autres, bien évidemment, il faut plusieurs mois. Comptez en moyenne 4-5 mois, mais on ne sait jamais où on met les pieds. Comme toujours, c'est le personnage qui décide, c'est l'histoire qui décide, et il peut y avoir de mauvaises surprises. Et croire que, par exemple, celui-ci va nous demander 4-5 mois de travail, et puis en fait, il va nous demander 2 ans de travail. Enfin, on ne peut jamais le dire à l'avance. On ne sait pas où on met les pieds. C'est vraiment les personnages qui décident. Et il y a des textes où c'est bon, ben voilà, comme dans l'existence, c'est un peu plus compliqué. Mais en moyenne, bon, quand le roman policier est déjà structuré, oui, comptez, allez, 4 mois de travail, quoi, à peu près.
Pour le premier jet, ensuite, peut-être encore 4 mois de travail pour la relecture.
Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, je le passe à un collègue ardennais dont je tairai le nom parce que j'aime bien être discret, qui relit. Et puis ensuite, ça part chez l'éditeur.
Très bien. il y a peut-être des lecteurs ou des auditeurs du blog qui vont se poser la question. La prochaine enquête du sanglier, elle paraîtra quand?
Oh, bah écoutez, je vous dis, là je termine les corrections du Comte Bruges. Après, je fais donc l'horloger de Titizé, parce que ça aussi, je porte celui-là, cette histoire-là, depuis au moins 7-8 ans. Donc là, maintenant, il faut vraiment que je l'écrive. Et seulement après, je me mette à l'homme de la rue Blanche, si tout va bien. Si entre-temps, il n'y a pas un roman qui joue des coudes et qui veut passer avant l'homme de la rue Blanche. Donc, si tout va bien, l'homme de la rue Blanche, je vais m'y mettre en septembre-octobre. Ce sera fini, je pense, en décembre-janvier. Donc, ça fera une parution, au pire, septembre 2021.
Oh, il faut attendre aussi longtemps. Oui.
Et parce que aussi, l'éditeur a son propre programme.
D'accord.
Il n'y a aucun écrivain qui arrive avec un livre, salut, et puis le bouquin, là, vous prenez les grands éditeurs, bon, par exemple, Grasset, Gallimard, ils ont des programmes qui peuvent aller jusqu'à plus de 2 ans. Hein. Alors, sauf si, bien sûr, vous avez écrit un bouquin, ça va d'ailleurs être, à mon avis, l'invasion en septembre-octobre, à la rentrée littéraire de septembre, il va y avoir des centaines et des centaines de bouquins sur le Covid-19, je pense qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de romans sur le sujet aussi. Et donc, ce sont des livres qui seront publiés en priorité, hein, parce qu'il y a des contraintes commerciales aussi. Hein. Donc, quand vous allez arriver avec un roman de littérature générale, qui va être mon cas, on va vraiment passer, quelle que soit la qualité du roman. Hein, les autres, les collègues aussi auront le même phénomène. Ça ne va pas être une priorité. Parce qu'il faut vraiment s'attendre à... Vous verrez en septembre-octobre une avalanche de livres sur le sujet et il y aura aussi beaucoup de romans. Donc voilà, il faut aussi comprendre l'éditeur qui non seulement a un programme qui peut aller jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, mais il fait aussi passer l'actualité. Or, mes livres ne sont jamais des livres d'actualité.
Oui, d'accord. Une autre question qui m'intrigue, dans l'énigme du Père Lachaise, il est question d'un petit carnet d'aphorismes. Et on peut goûter dans tout au long du roman à ces aphorismes, parce que c'est lié à l'intrigue, et j'en dirai pas plus. Alors, je me suis posé la question, alors, où avez-vous trouvé ces aphorismes? Et puis après, je me suis dit, mais en fin de compte, ils sont certainement de vous. Et donc, est-ce que vous avez réellement un tel carnet?
Voilà, donc vous avez gagné. Alors, pour l'instant, de mémoire, je crois, parce que je n'ai pas un titre définitif en tête, mais je crois que si je ne me trompe pas, c'est un recueil d'aphorismes qui a pour titre, pour l'instant, « Quelques pas dans le ciel ».
Oui, donc c'est bien, mais c'était vraiment très intéressant de les distiller voilà,
Donc là, il y a peut-être...
dans le policier.
Il y a peut-être 500 pages, 500 feuillettes d'aphorismes qui sont classés par thème et par ordre alphabétique. Ça, c'est d'ailleurs un de mes livres préférés, bon, auquel je n'ai pas encore donné la forme définitive. Il y a à peu près 500 feuillets d'aphorismes comme ça, et qui sont donc classés par ordre alphabétique. Donc si, par exemple, un jour, je sais pas, vous cherchez un aphorisme sur la guerre, ou la forêt, la nature, donc simplement, voilà, l'ordre alphabétique, vous mettez AG, et vous tombez sur, selon, 5, 6, 10, 12 aphorismes sur le sujet, quoi. Donc ce sont des aphorismes que j'ai tirés de ce recueil-là, et effectivement, ils sont tous de moi. Sinon, j'aurais cité, bien évidemment, c'est une question d'honnêteté intellectuelle, sinon j'aurais cité le nom des auteurs. Voilà.
Très bien. Donc, et donc là aussi, c'est peut-être un projet de livre
Oui, tout à fait. D'ailleurs, mon épouse le sait, je vais vous faire sourire, elle sait que la première chose à faire, si un jour il m'arrive malheur, c'est d'éditer ce roman-là et de reprendre... voilà, c'est parce que c'est... Oui, c'est un de mes livres préférés. Voilà, j'aime bien cette forme-là. J'aime bien cette forme, voilà, en quelques mots, d'ouvrir, ou à défaut d'ouvrir des portes, au moins les entre-ouvrir, des portes que certaines personnes n'ont pas forcément vues, et rien que de les entre-ouvrir. Et c'est un exercice qui n'est pas évident, en quelques mots, d'essayer. C'est pas évident de montrer qu'il y a une porte à un endroit où personne n'en voit une, quoi. Et donc ça, c'est un de mes livres préférés. Ça, je pense que s'il fallait placer quelques livres avant les autres, ce recueil d'aphorismes en ferait partie.
Très bien.
Mais alors, le titre définitif, je vous dis pour l'instant, c'est Quelques pas dans le ciel. Bon, c'est peut-être un peu long, c'est peut-être un... Bon, c'est vrai que c'est joli, Quelques pas dans le ciel. Hein, vous voyez bien par rapport aux aphorismes, chaque phrase étant un pas supplémentaire. Bon, je ne garantis pas que ce soit le titre définitif. Quoi. Mais sinon, oui, tout est bien de moi.
Très bien.
Sinon, j'aurais cité le nom des auteurs, bien sûr.
Oui, bien sûr. Bien, Fabrice Paulus, je vous remercie beaucoup pour cet entretien téléphonique.
À l'inverse, comme toujours, c'est moi qui vous remercie.